Bien, mesdames et messieurs, merci de vous être déplacés pour un événement de la vie littéraire bordelaise, que sont cette publication, l'édition d'abord du texte et la traduction des œuvres d'Ozone de Bordeaux, comme il est vraiment dit, et on a le plaisir d'accueillir l'auteur de cette somme monumentale. Il va nous expliquer comment il est parvenu à ce travail vraiment qui est tout à fait achevé et puis qui s'étale sur presque 15 ans de travail. Ozone, vous le savez, c'est le nom qui parle chez nous. Ce nom qui parle, c'est le nom bien entendu du château, du grand château de Saint-Émilion. Mais c'est aussi, je remercie la directrice du centre de recherche Ozonus d'être venue, Valérie Fromentin. Ozonus, c'est aussi le nom d'un centre de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, qui tire directement son nom du grand poète latin. Et c'est aussi, si vous voulez, aussi en remontant Elivine, qui a été le premier éditeur des œuvres d'Ozone, Elivine, qui est aussi très présent dans l'université de Bordeaux 3. Donc en fait, c'est aussi un homme auquel il faut penser, puisque vous en direz sans doute un mot, c'est Robert Etienne, fondateur du centre Ozonus, mais aussi celui qui, en 1986, a publié un livre sur les Ozones ou les ambitions de notables aquitains. Et c'est donc cet ouvrage considérable que nous allons aujourd'hui présenter. Et d'abord, la première question que je voudrais poser à Bernard Combeau, c'est pourquoi ? Pourquoi cette volonté de rééditer, pour la première fois depuis un siècle et demi, l'ensemble des travaux d'Ozone ?
Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, c'est une question déjà complexe. Pourquoi le rééditer ? La première raison de fond, c'est que depuis une cinquantaine d'années, les historiens d'abord, puis les historiens de la littérature à leur suite, ont amorcé une réévaluation complète de l'Antiquité tardive. Depuis les ouvrages de Peter Brown ou d'Irénée Maroux, on ne parle plus de décadence, de romans de la décadence, car on s'est rendu compte qu'il y avait eu dans la fin de l'Empire des moments de renaissance, et notamment le IVe siècle en est une. On parle couramment aujourd'hui de renaissance constantino-théodosienne, donc entre Constantin au début du IVe, Théodose à la fin du IVe, c'est exactement la période d'Ozone, puisqu'il est né à peu près en 309 et mort en 395 après Jésus-Christ. Et c'est une période où l'Empire est remarquablement prospère, en tout cas son administration est d'un raffinement très subtil. Ses universités, ses écoles dans toutes les grandes villes, à Constantinople, à Antioche, à Athènes, à Rome, à Milan, à Toulouse, à Bordeaux, à Coimbre, le rayonnement universitaire est tout à fait remarquable. Les impôts arrivent à rentrer, l'argent ne se cache pas trop, le billon, la mauvaise monnaie, ne chasse pas trop la bonne, c'est-à-dire la monnaie d'or, et les menaces que faisaient peser certaines tribus barbares sont momentanément suspendues. Donc, après la période des invasions des Vandales ou des Visigoths, l'Empire renaît, se redresse. Donc, on a cette réévaluation générale faite par les historiens et par les historiens de la littérature. Ensuite, en tant que historien de la littérature, la période est très intéressante sur le plan littéraire et Ozone a une situation tout à fait particulière. C'est un passeur, c'est quelqu'un qui a transmis au Ve siècle, à la génération suivante, aux générations suivantes, l'héritage de la poésie latine. Donc c'est un homme charnière du point de vue de l'histoire littéraire. Et enfin, une troisième raison, c'est qu'il y avait eu des progrès, il y en a aussi, du point de vue philologique, dans la connaissance de la tradition manuscrite, qui, dans le cas d'Ozone, est une des plus complexes qui soit. Et il y avait besoin de réévaluer. En France, il se trouve en plus qu'Ozone est donc le seul classique des lettres latines. Je ne compte pas pour classique Sidoine Apollinaire ou Fortuna. dont les thématiques sont purement chrétiennes et, ou holistiques et n'ont rien à voir. Ozone est encore un poète classique, on peut, entre guillemets, un auteur qu'on étudiait dans les classes, quand on faisait du latin dans les classes. Il figure dans les lettres latines de Maurice et Thévenot. Et donc, cet auteur classique est le seul que la Gaule ait donné aux lettres latines. L'Espagne à Martial, Lucain, Sénèque, nous n'avons qu'Ozone, Ozone et Bordelais. Bon, les manuscrits le présentent toujours comme Decimus Magnus Ausonius Bordigalensis. Alors, s'il est Bordigalensis, effectivement, Bordeaux tient une grande place dans son œuvre. Donc, c'était important de revenir à Ozone, de voir ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la tradition manuscrite, parce qu'en France, nul n'avait travaillé depuis Élie Vinet, édition de 1580. Il y en a une première, et donc c'est quand même spectaculaire. L'édition qu'a faite ensuite l'abbé Souchet pour la collection Adusum Delphini en 1721 est part du texte de Vinet. Corpée, sous la Restauration, traduit à partir du texte de Souchet, qui est le texte de Vinet, et Jasinski, un inspecteur d'académie, en 1934, publie et traduit en prose pour les classiques Garnier le texte de Vinet, amélioré par Piper. En fait, alors les savants allemands, pour les Schenkel, un autrichien, viennois, très fin, pour les MGH, avaient travaillé surtout sur la branche humanistique, des manuscrits de la fin du XVe qu'ils connaissaient très bien, parce qu'on les trouvait en Italie, de Vienne, c'est pas trop loin. Et Piper, un Prussien, avait, lui, pour Teubner, travaillé une décennie après, dans les années 1890-1895, notamment sur le Vossianus, manuscrit essentiel, sur lequel avait déjà travaillé de la ville de Miremont, du reste à la même époque, un peu après, à Bordeaux, au début du XXe siècle.
Justement, puisqu'on en est là, éditer un texte, ce n'est pas, chacun le sait, il y a dans cette salle des collègues qui ont édité des textes, ce n'est pas seulement prendre un texte, le recopier et le traduire. Je crois que il faut que toute l'Assemblée n'est peut-être pas, je dirais, initiée à la technique de l'édition de texte. Il faudrait que vous creusiez un petit peu pour les moins savants de l'Assemblée ou les moins spécialistes dans l'édition des textes, savoir comment on arrive à donner un texte qui se rapproche le plus, sans doute, de l'original.
Alors, évidemment, éditer un texte du point de vue de l'ecdotique, de la technique, ça consiste à faire la recension et la collation des manuscrits existants, des témoins, à regarder les fautes de copie, certaines sont manifestes, le texte ne fait pas sens, à classer ces fautes, à essayer d'analyser le mécanisme des fautes pour voir si ce sont des fautes mécaniques dues aux copistes ou si ce sont des fautes plus particulières, qui peuvent remonter à un original, à un modèle, un antigraphe qui aurait été différent de celui d'un autre copiste. Et en comparant ainsi les leçons, les textes que l'on lit dans les différentes familles de manuscrits, en procédant au classement méthodique des fautes, on procède un peu comme un généalogiste et on remonte sources communes d'une même famille de manuscrits. On apparente les manuscrits entre eux. On choisit ensuite, non pas le meilleur manuscrit, on ne fait plus ça, mais au coup par coup, les leçons, les lectures qui paraissent les plus pertinentes. Et tout cela est un travail critique de choix, au sens étymologique, de choix des meilleures leçons, et qui demande énormément de technique, bien sûr, et de patience. C'est tout le travail de la philologie, c'est ce qu'ont appris à faire les humanistes au XVIe siècle, et ce qu'on continue à faire, ce que l'érudition, les chartistes, les spécialistes des manuscrits, les codicologues, les papyrologues, font pour arriver à établir un texte. Alors, un texte qui soit le plus possible de quoi? Le plus près possible de quoi? De l'original, dites-vous. Le problème, c'est qu'on peut avoir plusieurs originaux. Il peut y avoir eu des variantes octoriales. Il peut y avoir eu des mises en circulation d'un même texte, mais avec des variantes, à différentes époques de la vie de l'auteur. Il peut y avoir eu, ensuite, dans le cours de la transmission, des interpolations. Lorsqu'un vers est un peu obscur, il arrive très souvent qu'il soit glosé en marge par le copiste. Et on écrit ses notes sur le manuscrit lui-même, sur l'exemplaire lui-même. Le copiste qui vient après, 150 ans, 200 ans après, trouve que cette glose est un vers, en fait. Car souvent, elles sont métriques. Le vers est glosé par un autre vers. Et le copiste se dit, il avait dû l'oublier, le collègue. Donc, je le réincorpore dans le texte. Et on a ainsi des gloses qui migrent, des gloses marginales qui migrent dans le corps du texte. Ces vers apocryphes, il faut essayer de les détecter et d'en expurger le texte. Mais il faut bien voir une difficulté. Ce cercle, qu'est-ce que l'auteur ? L'auteur, c'est le caractère qui apparaît le plus souvent à la lecture des manuscrits qui nous sont restés. Autrement dit, c'est à partir du texte qu'on se fait une idée de l'auteur, et à partir de l'idée de l'auteur qu'on juge bien souvent de la pertinence d'une lecture dans le texte. C'est un travail qui, comme le radar, a ses limites. On n'arrive pas à percer les brumes cimériennes, et notamment dans la tradition d'Ozone, qui est, je vous le dis, la plus compliquée, et c'est pour ça que personne n'avait voulu s'y risquer. Et c'est de ça dont je suis le plus fier, parce que c'est ce qui m'a coûté le plus de travail, même si la traduction a également sans doute quelques qualités, l'établissement du texte d'Ozone était quelque chose qui avait rebuté, je pense, bon nombre de savants. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons peu de savants qui soient payés pour étudier les manuscrits, quelques-uns à l'IRHT, quelques-uns au CNRS, mais vraiment, ils se comptent sur les doigts des deux mains. Donc c'est des universitaires qui font la plupart du temps ces travaux d'édition. Mais le professeur d'université, avec ses charges d'enseignement et ses charges administratives, il n'a pas assez de temps. Alors finalement, ça a été un professeur de Cagnes qui s'y est collé.
Qui a visiblement donc beaucoup de temps.
Non, eh bien justement, le problème c'est que j'aurais mieux fait de me casser le poignet le jour où j'ai signé ce contrat. Parce qu'au départ, il ne s'agissait que de traduire. Au bout de 6 mois, j'ai dit à Denis Mollat, je ne peux pas traduire parce qu'il y a des problèmes d'établissement du texte. On marche sur du sable. Le texte n'est pas bien établi, il y a des problèmes non résolus et à foison. J'ai commencé alors à voir du côté des manuscrits. Et à la lecture des premiers microfilms, j'ai compris qu'il y avait effectivement un travail énorme à faire pour moderniser notre réception codicologique des manuscrits d'Ozone. J'ai donc décidé d'en faire une thèse à ce moment-là. Quitte à faire un travail aussi important, autant lui donner une sanction universitaire. Et je me suis engagé dans cette double aventure de proposer une traduction pour les éditions Mollat, bien sûr, mais d'arriver de traduire un texte aussi sûr que je pourrais l'établir à l'époque d'aujourd'hui. Et ça a été une aventure dans laquelle j'aurais mieux fait de ne pas m'engager. Mais bon, s'il n'y avait pas eu cette naïveté de ma part au départ, ça ne se serait pas fait. Alors qu'il y a peu de temps, j'ai travaillé quand même pendant 4 ans, plus de 100 heures par semaine, dont à peu près 50 heures pour la Cagne de Louis le Grand et 50 heures pour Ozone. Ça m'a épuisé, littéralement, c'est un travail de bénédictin, et j'aurais mieux fait de ne pas m'y engager, ça aurait été la prudence, si j'avais su à quel point ça me donnerait de la tablature. Le pire est que, après la thèse soutenue, Jean-Louis Charlet et François Dolbeau m'ont fait un certain nombre de remarques qui m'ont amené à tout reprendre en ce qui concerne la classification des manuscrits. Et donc l'édition que je propose aujourd'hui est nettement différente de celle qui avait fait l'objet de ma thèse au début des années 2000. Cette fois, je crois que dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas aller plus loin. Mais je voudrais quand même, si vous me le permettez, raconter une anecdote. Il y a un manuscrit fantôme parmi les manuscrits qui sont cités dans les notes en latin au bas du texte latin. Ce manuscrit porte un sigle, c'est Arobase. Alors, pourquoi Arobase ? L'usage est que les manuscrits, les témoins existants, sont nommés par l'initiale, en capitale romaine, du nom latin qui leur est donné. En général, celui de leur inventeur, du savant qui les a possédés à l'époque humanistique, etc. Vocianus, parce que c'est un manuscrit de Vossius, par exemple. Et puis, on met des lettres minuscules grecques pour les manuscrits les modèles que l'on suppose mais que l'on n'a plus. On dit, trois manuscrits présentent les mêmes erreurs qui ne peuvent pas être des fautes matérielles, donc ils remontent au même modèle, je ne l'ai plus, je l'appelle Alpha, par exemple. Et là, c'est un manuscrit qui est entre les deux. C'est un manuscrit que nous pouvons lire et qui n'existe plus. En effet, il est, en 1552, le secrétaire du roi de Naples, Sanazzaros, vient à Lyon, au monastère de l'île Barbe, et découvre, dans cette abbaye bénédictine, 50 ans avant que Nicolas Charpin y découvre le grand manuscrit d'Ozone, le Vocianus, une particula, comme il dit, c'est-à-dire une petite partie pulvérulente, qui a manifestement, qui est de la même famille que le Vocianus, puisqu'on y trouve des vers, des parentales, des professeurs de Bordeaux, et d'une foule de pièces qui n'existent que dans le Vocianus. Il ramène à Rome, il commence par copier les variantes sur son édition. L'édition, une des premières, une édition de la fin du XVe siècle, imprimée par Aldemanus, et il rajoute en marge des variantes, puis à la fin, comme il y a des poèmes tout à fait inédits, il les copie sur les pages blanches de son édition. Il ramène la particula, ce vétustus, ce très vieux manuscrit, à Rome. Là, un de ses amis, Jérôme Aléandre, le consulte. La note. Et nous avons conservé les notes d'Aléandre. Nous avons conservé l'édition Gentine dans laquelle Saint-Nazaire avait noté ses annotations. Et un troisième savant de l'époque, Accursius, qui écrit un livre de commentaires sur les poètes latins, s'inspire de cette particula qu'il dit avoir lue, et prend lui aussi des notes et des variantes. Une fois qu'on a prouvé que les trois humanistes avaient bien vu la même chose, on peut se servir de leur copie pour reconstituer, en partie au moins, ce manuscrit disparu. Voilà donc un manuscrit que nous ne possédons plus, mais dont nous pouvons quand même lire les leçons. Voilà pourquoi il a ce sigle bizarre, arrobase, qui veut dire qu'il n'est ni un témoin existant et que l'on peut consulter dans un dépôt, ni un témoin simplement reconstitué, auquel cas il aurait eu une lettre grecque, comme siglaison. Il existe sans exister, c'est un manuscrit fantôme reconstitué. Et ça a fait bouger un petit peu la façon, ce qu'on savait sur l'histoire du manuscrit Vocianus et de la collection de pièces qu'il transmet.
Alors, donc vous avez montré à quel point, enfin, tout le travail du philologue. Il faudrait maintenant passer au travail du traducteur et je dirais même du poète. Parce que, effectivement, vous avez dit, Ozone a déjà été traduit en français, il a été traduit essentiellement en prose, mais vous l'avez rendu sa forme poétique. Alors, racontez-nous cette aventure de traducteur-poète.
Alors ça, c'est une autre affaire. Quand on lit la façon dont Ozone a été reçu au 19e et au 20e siècle, on le prend pour un grammairien pédant, sans inspiration, pour un poète sec, qui versifie sur n'importe quoi, sur les trous d'un dé à coudre ou sur les propriétés du nombre 3. C'est véritablement... et c'est un peu ce qu'on ressent quand on lit Ozone dans une traduction en prose. C'est assommant. C'est à n'y rien comprendre. Il y avait quand même un problème, c'est que au XVe et au début du XVIe, il y a eu une véritable ausonomania. Ça a commencé en Italie, Ozone, à l'époque déjà de Pétrarque. Pétrarque, en 1350, avait un des très beaux manuscrits d'Ozone, et qui venait sans doute de Bobbio. Pétrarque s'intéressait déjà à Ozone. Salutati s'est intéressé. Les premiers humanistes qui ont commencé, en poètes néo-latins qu'ils étaient, à émuler ces poètes grecs qu'ils exhumaient de leurs vieux exemplaires et qui chantaient dans un latin qui était si différent du latin qu'ils utilisaient tous les jours, eux, latinophones de métier, mais qui utilisaient un latin scolaire, universitaire, juridique, un latin de tabellion et de notaire, trouvaient là quelque chose d'absolument admirable et qui n'était pas non plus de la même veine que la prose oratoire. et qui était très différent de la grande poésie classique latine. Ce n'était pas Virgile, ce n'était pas Horace, c'était un peu comme Stas, mais encore plus différent, plus singulier. Et eux qui cherchaient à se singulariser par l'écriture ont évidemment émulé Ozone. La Renaissance, il n'y en a qu'une, elle est italienne, a été suivie, vous le savez, de répliques nationales un peu partout en Europe occidentale. Et tous les poètes qui se rattachent à ce mouvement renaissant, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, ont émulé des poèmes d'Ozone. L'un des cas les plus célèbres, c'est le Colligue Virgo Rosas, cueille jeune fille les roses, qui est une promenade au fond d'un jardin, les roses que l'on voit flétrir et l'invitation à jouir de la vie, le modèle tout simplement des roses de Baïf et bien sûr de Ronsard dans Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose. Pourquoi cette ozonomania? Et à Bordeaux, on doit être particulièrement sensible à ce phénomène, puisque l'engouement qu'avait la partie des notables bordelais qui envoyaient ses fils étudier au collège de Guyenne, un des six plus grands collèges humanistes que possédait la France à cette époque-là. C'est l'emplacement du lycée Montaigne. Ces notables-là, magistrature de robe, au négoce, s'intéressaient beaucoup à Ozone en même temps que les professeurs du collège de Guyenne, et à commencer par le principal de ce collège, Élie Vinet, et puis l'un de ses professeurs devenu imprimeur, Simon Millange. Tant et si bien qu'un des propriétaires viticoles de la région, à Saint-Émilion, a voulu appeler sa propriété Ozone. Donc, cette manie, cet engouement pour Ozone est véritablement un phénomène de société dans l'élite lettrée tout à fait attesté. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé au XVIIe ou XVIe siècle chez Ozone que nous n'entendions plus? D'où l'idée qu'il fallait, effectivement, quand on le lit en latin, et c'est pas facile. Au début, je rebondissais comme une balle de golf sur du béton. Je comprenais sans comprendre. Petit à petit, je me suis mis à l'entendre. Bon, évidemment, c'est mon métier. Et je me suis rendu compte qu'on avait là un poète un peu mal armé, hein, profond, précieux, chez qui la matière n'était rien, mais la manière était tout. Un vrai poète, un vrai tempérament poétique et de grande veine. Donc le classique latin que la Gaule avait donné aux lettres latines était tout de même un vrai poète. Comment le faire entendre à des oreilles d'aujourd'hui? Et là, ça pose vraiment le problème de la transmission. On croit souvent que l'Antiquité, et vous le savez, Monsieur le Président, vous en êtes un spécialiste, c'est un stock de concepts et d'idées que, bien connus, balisés, étiquetés, que l'on peut ranger comme des pots de confit sur ses étagères. On a Homère en stock, on a Pindare en stock, on a Virgile en stock. Nenni. L'Antiquité n'a pas la faculté de perdurer jusqu'à nous, on ne sait par quel mirage. À chaque fois, en réalité, nous voyons que les présents successifs que ces œuvres ont traversés au cours de leur transmission, les gens les ont utilisés pour poser à ces textes anciens, qui sont nos origines, les questions inédites de leur présent. C'est pour ça qu'on réécrit l'histoire à toutes les générations. C'est que les questions qu'une génération se pose sont neuves, inouïes, inédites, et pour résoudre ces problèmes, on réinterroge les textes sources, qui sont notre originalité, on se les réapproprie, et pour se les réapproprier, il faut les réinterpréter. Mais qu'est-ce que réinterpréter un poète? C'est le redire, le réénoncer, c'est le remettre dans sa bouche, lui rendre une voix. Donc on ne peut pas traduire un poète aujourd'hui en prose. Donc il fallait arriver à une métaphore de métrique, et après plusieurs essais, plusieurs tâtonnements, j'ai fini par choisir un vers de 14 syllabes pour rendre l'hexamètre latin, qui compte entre 12 syllabes au minimum et 17 au maximum. Pourquoi un vers de 14? Pourquoi n'aller pas jusqu'à 16? Parce que ça permet de se césurer 8, 6 ou 6, 8. Un vers, le vers non césuré français le plus long possible, c'est l'octosyllabe. Au-delà de 8, un vers est nécessairement césuré. Un vers de 10 se césure 4, 5 ou 5, 4 selon les époques et les genres. Un vers de 12, 6, 6. Et le vers de 8, c'est un hexasyllabe plus un octosyllabe, dans l'ordre 6-8 ou 8-6. Ça n'est jamais un vers césuré 7-7, même si j'ai des vers césurés 7-7, mais rarement. Le pentamètre dans les distiques élégiaques était rendu alors, à ce moment-là, par un alexandrin, césuré 6-6. Et donc, entre la césure de 6, l'élément de 6 syllabes du grand vers et les deux éléments de 6 syllabes du petit vers, traduit par un alexandrin, je pouvais avoir des échos à la rime, comme il y a des échos à la coupe chez Ozone, et surtout j'arriverai à voir, à serrer de plus près le rythme d'Ozone. La poésie latine, c'est comme du rap. Ça écrase les quantités, et ça écrase les quantités, comment dire, ça donne finalement aux quantités, ça durcit plutôt les quantités, et il faut effectivement se rendre compte que dans ce rythme, ce qui s'inscrit, c'est toute la subjectivité de l'énonciateur, et par conséquent, sa situation historique, son historicité, sa situation. Donc, il n'y a pas de poésie, disait Goethe, qui ne soit de circonstance. Et si l'on veut lire Ozone articulé à sa circonstance, comme cette articulation, c'est le rythme, au sens où l'entend Henri Méchonique, il fallait que je puisse rendre ce rythme en français. D'où le choix technique de ce vers de 14, un peu court, et j'aurais bien aimé avoir deux syllabes de plus souvent. Mais enfin, je me suis dit, lui s'est tenu à une règle métrique, je dois me tenir aussi à la même contrainte. Et grosso modo, dans les meilleurs cas, quand je lis mon français, j'entends ce que j'ai entendu en latin. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des cas où c'est très heureux et des cas où c'est moins heureux.
Alors justement, y a-t-il des exemples? Parce que je pense que c'est à vous de nous donner les meilleurs exemples des difficultés que vous avez pu avoir, par exemple, à traduire certains passages. Il y a des ouvrages bien connus. Tous ceux qui ont erré dans le Morisset et Thévenot connaissent bien la Moselle. Finalement, n'était-ce pas peut-être le plus simple à traduire? Y a-t-il d'autres... Y a-t-il des passages qui vous ont particulièrement donné du fil à retordre?
Tous m'en ont donné, mais je voudrais...
Certains plus que d'autres encore.
Ah oui. Alors, si vous voulez, je vous cite un passage. Le griffe du nombre 3. Alors, je regarde. Le griffe, griffus, c'est un filet. Gryphos en grec. Donc, j'ai traduit ça par l'entrelac du ternaire. Et là, c'est de la virtuosité sur les propriétés de tout ce qui marche par 3. C'est le type même de sujet ingrat et qui était tout à fait incompris. Alors je vais essayer de donner lecture d'un bref passage. Et là, il y a une préface d'ailleurs adressée à Symmaque. Se cacher parmi mes brimborions ce libricule obscur. Que n'y a-t-il demeuré au lieu de montrer le bout du nez et d'en périr comme la souris? Tel le coq de Clion, je l'ai déterré de la poudre peuprassière, je l'ai secoué, relu, et comme un prêteur avare, j'ai préféré placer cette mauvaise monnaie plutôt que de l'enfouir. Alors, en moi-même, je me suis dit, non le mot de Catulle, à qui donc donner ce charmant livret nouveau, mais ceci, qui est moins musophile, mais plus vrai, à qui donc donner ce méchant cahier barbare? Et je n'ai pas longtemps en chercher, votre nom m'a sauté à l'esprit. Alors voilà comment ça commence. Trois fois bois, ou bien trois fois trois. Voici la loi mystique. Quiconque trois bolets boit, ou par trois les multiplie, il faut neuf fois par l'impertroi qu'au cube il les complique. En puissance, trois, de droit, vaut trois fois trois. Et là, tout se lit. La formation de l'embryon, les couches à bon terme, et neuf fois neuf qui du destin fixe l'ultime borne. Hobbes eut d'abord trois garçons, etc. Enfin bon, voilà un poème, et ça dure 90 vers, évidemment, il ne faut pas, il faut que ce soit multiple de trois, où il évoque tout ce qui... Ça, c'est quelque chose de très difficile à rendre. Par exemple, quand il évoque les trois types d'actions en droit romain, il y a trois droits sanctionnés par trois fois quatre tables, le droit sacré, le droit privé, le droit public, enfin, trois sortes d'actions au civil, l'un dewi sur le maintien, l'autre ubi sur la possession, et quorum bonorum, il est trois franchissement et trois dégradations, de trois genres sont les discours, sublimes, etc., etc. Bon, ça, c'est très difficile. C'est pas le plus... j'aimerais citer un exemple plus poétique, au sens pour nos oreilles. Alors, on va choisir un exemple, ce qui se rapporte à Bordeaux. Voilà, à la fin, il y a une poésie de catalogue, donc il fait un catalogue de toutes les villes célèbres de l'Empire. C'est d'ailleurs très intéressant sur le plan historique, parce que ces villes sont ou bien des... ville où a séjourné l'empereur, comme Milan, comme Trèves, où il a sa capitale, où il est passé, comme Constantinople, ou bien des villes universitaires. Et c'est à titre de ville universitaire que Bordeaux y figure, la dernière de celles que le poète nomme. Depuis déjà longtemps, je m'en veux d'un silence ingrat, ô patrie, Bacchus fait ta gloire, et ton fleuve, et tes hommes, tes mœurs, le génie de ton peuple, et ton noble Sénat. Parmi les premières cités, pourtant, je ne te nomme, comme si, pour ta taille, à tort, je craignais te louer. Non, je ne rougis pas, je n'ai point du Rhin étranger les rives pour séjour, ni les froids du glacial Émus. Bordeaux est mon sol natal, avec sa brise clémente, son ciel doux, les dons généreux de son fertile humus, son long printemps et sa brume aux jours nouveaux tiédissantes. Le fleuve où pénètre le flux, sous les vignes des côtes, écume et boue en affluent, prenant des airs de flot. Elle offre aux yeux ses murs carrés, et ses tours sont si hautes que l'élan de leur cime aux cieux perce jusqu'aux nuées. Admirez ses rues bien tracées, ses maisons alignées, ses places d'une largeur digne d'en sauver le nom. Puis au droit des carrefours, de ses portes, les répons, et dans la ville, la fontaine où s'écoule le fleuve. Quand le père océan bout et du flot montant la breuve, alors toute la mer ondoie couverte de vaisseaux. Je sais, etc. Bon, je vais arrêter là.
Mais ça montre bien qu'en fait, pour traduire Ozone, non seulement il faut être un poète dans la traduction, mais il faut être également un poète dans la déclamation. Parce que la manière dont vous parlez d'Ozone, on voit bien que vous l'êtes totalement approprié. Et en même temps, vous donnez vraiment en français le rythme de la poésie. Et ça, c'est tout à fait remarquable.
C'était le but. C'était
difficile. On se doute que c'est pas par hasard que vous l'avez fait. Donc c'est ça en fait qui paraît qui fait l'intérêt de cette publication. Alors il est toujours très très malsain de dire du bien de César à Rome, mais il faut quand même, je dirais, remercier les éditions Mola d'avoir publié cet ouvrage. On sait très bien que c'est pas avec ce type d'ouvrage qu'on fait fortune. Ni vous, ni probablement l'éditeur. Mais la valorisation de quoi que ce soit ne se mesure pas uniquement aux espaces sonnantes et trébuchantes que l'on y amène. Donc ça, je pense, je souhaitais le dire, je voulais le dire en introduction, mais il ne fallait certainement pas l'oublier de le dire. Alors, comment expliquez-vous finalement, même si ce que vous en avez dit à propos du chiffre 3, comment a-t-on pu écrire avec des savants aussi grands que Ferdinand Lotte, par exemple? As-tu pu dire que la plupart du temps, Ozone est ennuyeux et sans originalité. Son style est celui d'un vieux professeur qui a la tête meublée d'expressions consacrées, et il déverse dans ses écrits la masse de renseignements hétéroclites accumulés pendant ses 30 ans de professorat.
Mais c'est l'histoire de la voyez-vous. Bailly, qui est le biographe de Descartes, nous raconte un rêve qu'avait fait Descartes. Donc on est à l'horizon 1640. Par une nuit de tempête, Descartes monte dans une ruelle, contre le vent, s'arc-boute, pénètre dans un cloître où il voit une lumière, et dans ce cloître, il y a sur un lutrin un livre ouvert. C'est ouvert aux épîtres d'Ozone, l'épître Quod sectabor vitae, quel chemin je vais choisir pour ma vie. Descartes pouvait rêver d'une épître d'Ozone. Leibniz a traduit en français, en vers français, en alexandrin, des épigrammes d'Ozone. Au XVIIIe siècle, après la querelle des anciens et des modernes, d'Ozone, il n'est plus guère question. À part peut-être s'en souvient de Lille dans ses saisons, car c'est un poète descriptif qui s'est décrit admirablement la nature. Au 19e, évidemment, le naufrage s'achève, et là, pessum datus ozonius est, il coule complètement au fond, parce que on se dit, on ne voit dans la poésie que l'originalité et la sincérité. Donc on se dit, pourquoi des citations? On n'a pas compris que la poésie antique, mais même la poésie moderne, c'est vrai chez Lautréamont, ne vivait que d'échos et de reflets. On n'avait pas compris les mécanismes intertextuels et on les opposait à l'originalité. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Donc évidemment, Ozone n'est pas un poète personnel dans ce sens-là. Et on ne comprenait pas du tout cette poésie d'écho et de reflet que l'on croyait de citation, puisqu'on l'analysait comme un poète, entre guillemets, didactique, comme si cette poésie pouvait enseigner à qui que ce soit, quoi que ce soit. En réalité, il choisit des matières, certes réalistes, objectives, communes, ténues le plus souvent, mais c'est pour en faire un véritable enchantement au niveau du carmen poétique. Et cela, Lotte, historien certes, très bon latiniste sans doute, mais complètement sourd à la poésie latine, comme beaucoup, puisque c'est une poésie quantitative, qui procède par longue et brève, beaucoup de savants ne l'entendaient pas du tout. Quand je parlais de rap tout à l'heure, c'est un peu provocant comme image, mais ce rap, il ne l'entendait pas du tout. Et surtout, il n'y attachait aucun prix. C'est une lecture très contemporaine qui lit le sujet dans son rythme. Ça, personne ne l'avait fait avant Henri Méchonique. Donc, en français, à propos de Victor Hugo. Et ça, ce sont des études qui datent des années 70-80. Henri Méchonique est mort l'an dernier. Donc il y a non seulement un renouveau, un revival de l'Antiquité tardive chez les historiens, mais également une réappréciation de la poésie latine tardive chez les littéraires, tant du point de vue historique que du point de vue stylistique et poétique. On ne comprenait rien à la poétique d'Ozone. Et j'ajouterai surtout une chose, c'est que cette poésie est métapoétique. La plupart du temps, c'est de la poésie, de ses styles, des choix stylistiques qu'il a fait qu'Ozone parle, en décrivant autre chose. Un exemple, un seul, le catalogue des poissons dans la Moselle. Ça n'est pas du tout ichtyologique. Il ne s'agit pas de nous renseigner, comme on l'a cru bêtement, sur la faune des poissons de la Moselle. D'ailleurs, certains poissons n'ont jamais été dans la Moselle. Ces poissons sont classés, je vous l'ai montré, ça c'est dans le CD-ROM qui est annexé à la couverture, en fonction des idées du style d'Hermogène, d'un critique grec qui s'appelait Hermogène. Et donc en fait, les groupes de poissons sont là pour représenter différentes nuances du style poétique. Et tout est interprété comme ça. Ça, jamais personne ne l'avait vu chez Ozone. Et donc l'autre l'ignorait totalement. Donc cette lecture prosaïsante et au premier degré faisait qu'on se prenait dans la ténuité des matières, dans leur manque d'originalité personnelle, et qu'on n'entendait pas la différence stylistique, l'individuation de la poésie latine par la plume d'Ozone. Et c'est ce que les humanistes avaient très bien entendu. Jamais personne n'avait fait chanter le vers latin comme cela. Et au fond, ce qu'ils cherchaient, c'était un moyen, une interface pour traduire la subjectivité. Vous savez que la Renaissance invente le sujet. Et l'invente en commençant par y travailler par l'écriture, et par l'écriture poétique. Montaigne ne cite que des poètes, pratiquement, dans les essais. Et la phrase de Montaigne, en français, commence à prendre le rythme du vers qu'il va citer juste avant de le citer. C'est extraordinaire. Mais il ne cite que des poètes. C'est dans le poète qu'il entend. Et ça, cette surdité, nous l'avons, elle est devenue à peu près générale à partir du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on comprenait, on entendait le vers latin, mais on ne l'ouïssait plus. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, Ozone, évidemment, qui n'a que ça pour se soutenir, devait périr nécessairement.
Le fait qu'il ait été chrétien, mais que, je dirais, son christianisme n'apparaisse guère dans ses écrits, n'a-t-il pas fait qu'il a été à la fois, je dirais, rejeté par les tenants d'une antiquité, de l'antiquité la plus pure, et finalement ceux qui cherchaient à trouver un début de littérature chrétienne.
Mais alors, à quelle époque y aurait-il eu ce partage, à votre avis?
C'est ça le problème.
Non, mais là, j'ai une question.
Ah oui,
une
question. Pour moi, c'est toujours ce même problème, au 18e, 19e siècle.
Ah oui, à cette époque-là.
Voilà. Qui peut expliquer une forme de rejet, n'étant pas considéré comme un auteur chrétien, quoique chrétien lui-même, finalement, il prenait le risque de ne plaire à personne.
Alors, en son temps, la poésie d'Ozone a été très politique et très bien reçue, aussi bien par les chrétiens que par les païens. Et c'est une raison de sa carrière et de son ascension politique. Au 5e siècle et au 6e siècle, jusqu'à l'époque de Grégoire de Tours, sa réception est excellente. Il est copié, diffusé, lu, étudié. Il enchante tout le monde parce que, justement, il permet d'avoir des échos de Virgile, d'Horace, sous un format, disons, portatif, comme on disait au XVIIIe siècle. Sous une forme brève, on avait des souvenirs de l'Iliade, de l'Odyssée, de Virgile, de l'Énéide, des Géorgiques, enfin bon. C'est beaucoup plus tard que cette question a pu se poser. On a, dans l'Antiquité, en tout cas de son temps, et dans le siècle suivant, la question de son christianisme n'a absolument pas été ni mise en cause, ni un obstacle à sa diffusion. Il est bien évident que le précepteur du fils de Valentinien, précepteur de Gratien, dont l'oncle est Théodose, ne pouvait pas ne pas être un chrétien sincère et convaincu. Il a écrit la première traduction en vers du symbole de Nicée, du credo. Ça n'est pas rien, tout de même. Et s'il y a eu une dissension avec son disciple et ami Paulin, lorsque Paulin a versé dans un mysticisme austère et voulu rompre avec les lettres païennes, ce que ne voulait pas faire Ozone, ça n'a jamais fait école à l'époque de Paulin, de saint Paulin de Nol. Donc, dans l'Antiquité tardive, la question du christianisme non plus. Le fait qu'il ait, quoique chrétien, écrit dans la tradition de la poésie antique païenne, n'a pas été gênant, au contraire. Et je ne pense pas que cette question du christianisme d'Ozone n'ait jamais agité les esprits avant le XXe siècle.
C'est plutôt le 20e.
Oui, ça serait plutôt le 20e. Et là, effectivement, ceux qui ne le comprenaient pas bien du point de vue poétique le rejetaient aussi comme chrétien mondain, chrétien de nom, chrétien de bouche, mais pas de cœur. Ce qui est complètement, là aussi, une méconnaissance anachronique du christianisme au 4e siècle. Ozone est né chrétien dans une famille chrétienne. Il a une de ses tantes qu'il appelle Devota, qui veut dire sainte, dévouée à Dieu. Il rend hommage, il est hanté par la vie éternelle. Il est hanté par le problème trinitaire. Bien sûr, il est un lettré à l'ancienne mode. C'est-à-dire quelqu'un qui continue à s'enchanter d'Horace, de Virgile, des épigrammes de l'anthologie palatine, même si elles sont quelquefois lestes. Il n'a pas du tout, quoiqu'il ait eu lui-même une vie très chaste, comme tous les gens de son siècle, d'ailleurs. Et il n'est pas chaste de plumes. Mais ça, plutôt, on trouvait que c'était le sel d'Ozone. Ça réjouissait encore beaucoup les humanistes qui travaillaient sur lui au début du XVIe siècle. Et personne n'y trouvait rien à redire. Alors, peut-être quelques chrétiens, à l'époque de l'affaire Dreyfus, ont trouvé qu'Ozone, s'il y en avait quelques-uns qui s'y intéressaient encore, était d'un christianisme de mauvais aloi, mais non, je ne pense pas que cette question controversée du christianisme d'Ozone mérite d'être posée. Et je crois que l'intérêt, c'est de comprendre comment on pouvait être un parfait chrétien, comme l'était Ozone, à sa manière, à son époque. Et si on n'arrive pas à faire coller ça, c'est que le modèle que l'on a, historique, du christianisme entre Constantin et Théodose, n'est pas juste.
C'est exactement ça. Le christianisme entre Constantin et Théodose est un christianisme qui s'avère tolérant. La rupture vient avec Théodose.
Voilà. Et Ozone est contemporain de cette affaire-là. L'édit de Constantin rend, comme on le sait tous, la religion chrétienne, religion officielle, religion d'empire. Mais la tolérance règne. Et pourquoi ? L'élite sénatoriale, à Rome, l'ancienne capitale, la capitale est à Trèves à l'époque d'Ozone, sur la Moselle, à cause, près du Limès, près de la frontière, à cause des menaces barbares. C'est une des raisons. Les autres sont dynastiques aussi. Les empereurs de Pannonie ne veulent pas aller régner à Rome, puis bon, ils ne seraient pas forcément les bienvenus. L'élite sénatoriale, dont Symmac est le parfait exemple, ce sont des gens qui ne veulent pas entendre parler de christianisme, mais qui sont très puissants. Même s'ils sont réduits, comme les courtisans de Louis XIV, à l'état de potiche politique, leur pouvoir de nuisance politique, en revanche, reste très important. Ce sont de riches propriétaires, ce sont les premiers contributeurs de la péninsule italienne, ils sont les héritiers de la légitimité symbolique, morale et religieuse de l'Empire, ça n'est pas rien. Et même à Trèves, un empereur né en Pannonie, c'est-à-dire Autriche-Hongrie, sur les bords du Danube, ne peut pas fouler aux pieds, comme pourra le faire peut-être Théodose, ne peut pas fouler aux pieds l'Italie restée en grande partie païenne. Le christianisme, en tout cas chez les élites sénatoriales et patriciennes, a très très peu pénétré encore en Italie à l'époque d'Ozone. Donc, Ozone, c'est quelqu'un qui est allié aux plus grandes familles latifondières, patriciennes, de Gaule et d'Espagne. Toutes ces familles sont, elles, largement christianisées. Il est chrétien, mais en même temps, il écrit une poésie qui est très appréciée par les sénateurs romains. Donc, il est l'homme qu'il faut à Valentinien. Il est l'homme charnière. Il a dans sa poche, à la fois, les élites païennes, restées païennes et obstinément païennes, farouchement païennes. Rappelle l'hôtel de la Victoire au Sénat. Simac, ils sont vraiment convaincus qu'ils veulent rester au culte des ancêtres, homos maiorum. Et ça, c'est un pouvoir de nuisance politique que les empereurs entre Constantin et Théodose sont obligés de contourner. Surtout quand ils sont eux-mêmes étrangers. Pannoniens. C'est quoi un pannonien ? Donc, ils s'imposent par la force militaire, par la rigueur de l'administration, mais enfin, quand même, l'Italie, c'est la source de légitimité. C'est Théodose, et même Gratien, déjà, le propre disciple d'Ozone, qui va commencer, comme Paulin dans l'ordre littéraire et religieux, à prêcher l'intolérance. Mais l'époque, si ça a été une renaissance entre Constantin et Théodose, c'est peut-être en partie parce qu'il y a eu cette tolérance religieuse.
Alors, je voudrais terminer cette première partie par des questions plus personnelles. Vous avez été professeur de lettres classiques en Cagne, inspecteur général. Comment voyez-vous l'avenir de ce qui fait un certain nombre de personnes dans cette salle leur vie, c'est-à-dire devenir des langues anciennes dans notre monde du début du XXIe siècle?
Je vous remercie de poser cette question à l'inspecteur général. C'est un problème très grave. Le grec est mort actuellement, d'après les dernières statistiques.
Ne dites pas des choses comme ça.
Si, les effectifs sont dérisoires. Non. Le latin survit. Nous avons un problème d'hémorragie importante au passage en seconde. Beaucoup de collégiens latinistes en quatrième et en troisième soit abandonnent, soit sont obligés d'abandonner, notamment du fait de la réforme actuellement en cours, parce que les options de lettres classiques, de latin et de grec, n'ont pas le statut dérogatoire, donc on dit qui permettrait de déroger à la carte scolaire et au secteur du lycée. Donc on dit aux élèves, ah oui, vous avez fait du latin et du grec, vous voudriez le continuer, mais tout ce que je vous propose, c'est ou bien de faire un enseignement d'exploration, qui n'est pas destiné à des gens qui ont déjà fait du latin et du grec, et qui est 1h30 par semaine et non pas 3h, donc ils se retrouvent à faire un enseignement qui ne leur est pas destiné, ou bien on les envoie dans un lycée où il n'y a pas de latin et de grec, où l'option n'existe pas. Donc, effectivement, nous sommes en train d'aller, nous devons remettre un rapport au ministre au mois de mai. Je suis en train de travailler là-dessus. Là, il y a un bug. La réforme porte un coup, sans le vouloir, bien évidemment, aux lettres classiques. Mais je crois qu'il y a plus grave. C'est le problème de la transmission. Je disais tout à l'heure que l'Antiquité n'est pas un héritage de concepts bien connus, balisés et connus d'avance. Qu'il faut se réapproprier à chaque époque les textes qui sont notre patrimoine, non pas, qui sont nos origines. Un patrimoine, c'est un legs, c'est réifié et stabilisé. Non, c'est pas ça. Les questions que nous avons aujourd'hui à poser aux textes fondateurs, ceux qui nous ont précédés n'avaient pas à se les poser. Et donc, pour répondre, pour pouvoir continuer à utiliser nos origines et nos textes fondateurs, nous devons continuer à pouvoir les lire. À être un certain nombre à pouvoir les lire. Alors, comment fixer à peu près ce nombre pour donner un ordre de grandeur? Il faut qu'il y ait quelques revues savantes. Il faut qu'elles aient un public, un lectorat. Il faut donc qu'il y ait au moins entre 5 et 10 000 latinistes bien formés par an en France. Sinon, nous perdrons le fil d'Ariane qui nous unit, qui nous relie à nos origines. Or, nos origines, elles font notre originalité. Mais justement, cette originalité, on ne cesse de taper dessus l'exception française, dit-on avec dérision, parmi les élites technocratiques. Eh bien, justement, il faut peut-être la préserver, cette exception latine, comme le fait fort bien l'Italie, et aussi très bien l'Allemagne, qui a pourtant moins de liens avec la culture latine, historiquement, que nous. Nous, c'est notre fil d'Ariane, c'est notre identité. Ah, le mot proscrit. Préférons-lui celui d'originalité. On a une originalité parce qu'on a des origines qu'il faut pouvoir réinterroger. Pour les réinterroger, il faut les relire, ces textes, les redire, pas les traduire. Parce qu'une traduction, les traductions se périment, les œuvres passent, les traductions se périment. À part les mille et une nuits traduites par Galland, qui ont fait œuvre et qui sont passées comme telles en français, et puis les vies de Jacques Amyot, la traduction de Plutarque, vous voyez, ou la King, la traduction de la Bible anglaise, celle qu'on trouve dans les tiroirs d'hôtel, des chambres, des tables de nuit, il y a très peu de traductions qui aient fait œuvre. Les œuvres passent, se transmettent, les traductions meurent. Tous les 40 ans, on retraduit les sonnets de Shakespeare. Passent encore ces drames, puisque au théâtre, une pièce ne vit que pour une saison. Et donc, on comprend très bien qu'il faille réadapter une pièce de théâtre au public d'une saison donnée, et donc retraduire Macbeth. Mais les sonnets, Sinvras, Northstone, Boundless, etc., pourquoi les retraduire? Est-ce que le fils de Hugo ne les avait pas bien traduits? Non. Chaque époque les entend autrement. Ça fait partie, la traduction, comme la tradition, c'est le premier élément de la réinterprétation. Donc ça, dans 40 ans, c'est mort. On fera mieux, on fera autrement, on l'entendra autrement. Mais si personne n'est capable de le refaire, ce geste que j'ai fait, alors c'est le lien avec nos origines qui sera rompu. Et quand il est rompu, c'est déjà arrivé une fois dans l'histoire, à l'époque des rois fainéants, quand l'État était par terre, qu'il n'y avait plus d'école, qu'il n'y avait plus de copies, donc plus de livres. C'est au 7e, c'est au 8e. Et il a fallu l'effort de Charlemagne, faisant venir Alcuin d'Irlande, faisant revenir des manuscrits du monastère d'Iona pour les copier à Aix-la-Chapelle et envoyer des missi dominici qui sachent un peu lire et aller dans les pour former de nouveaux magistrats, de nouveaux officiers qui soient capables de rédiger un ordre du jour au front des armées, qu'ils ne soient pas ou des curés qui puissent prêcher sans prendre Vénus pour un homme. Comme c'est arrivé au temps de Grégoire de Tours, déjà. Donc ça, on a déjà eu cette rupture, elle nous a coûté très cher. Bien sûr, comme c'était à peu près synchrone en Europe, on s'en est pas trop rendu compte. Mais aujourd'hui, je pense qu'une telle rupture avec nos origines nous coûterait très cher. On a une éducation qui est analysée en termes fonctionnalistes. Les parents, les familles sont responsables, c'est pas l'État. Le ministère est prêt à donner de l'argent pour eux. Il est parfaitement conscient qu'il faudrait que ça vive. Le problème sont les familles qui votent avec leurs pieds, et qui disent « Ah, mais il faut qu'il apprenne des choses utiles pour avoir un métier qui lui rapporte de l'argent. » Cet utilitarisme familial est l'obstacle à la transmission, à la pérennisation des lettres classiques aujourd'hui en France.
On comprend tout à fait le sens de votre propos, et je ne doute d'ailleurs pas que, puisqu'il faut y revenir, que votre livre s'inscrit justement dans cette volonté de rendre accessible et, on va dire, moderne même. Un auteur comme Ozone, alors à Bordeaux peut-être, mais plus généralement, parce qu'il n'y a aucune raison que ce livre reste sur Bordeaux. Et je peux vous assurer que la publicité en sera faite dans toutes les bonnes revues. Je crois que c'est ça, en fait. Votre ouvrage, vous êtes en adéquation parfaite avec ce que vous dites. Ben ça, à partir du moment où on a une telle osmose entre l'homme et son œuvre, on peut dire qu'on est arrivé à une forme de perfection.
C'est la perfection d'une bouteille à la mer. Une des raisons, vous me demandiez pourquoi j'ai fait cela, c'est parce que j'ai eu le sentiment que dans la génération qui suivait, ce n'était pas évident de trouver quelqu'un qui veuille le faire. Capable de le faire, ça c'est sûr, mais qui veuille le faire, j'en étais pas sûr. Donc je partirais plus tranquille en ayant bouché cette bouteille et en l'ayant lâchée au courant de l'histoire. Mais j'espère qu'elle arrivera à des rives prochaines où l'on sera émerveillé de ce que l'on entend. Est-ce que vous me permettez de lire quelques vers d'Ozone? Alors c'est ce poème donc, De Rosis Nescantibus, sur la naissance des roses. Alors ça commence par une promenade dans le jardin. On était au printemps, le frais pinçait avec tendresse, une aube de safran expirait ses caresses. Plus mordant, les zéphyrs, courant devant le char d'Aurore, m'avaient fait prévenir les ardeurs du matin. J'allais par la rosée, d'un carreau l'autre, en mes jardins. J'aime qu'au point du jour, l'air frais me revigore. Et j'ai vu donc, cher Oro, au soin de Paestum, la rose s'éjouir, humide en la rosée, quand l'aube va pâlir. Des perles, çà et là, brillaient par les branches pruinées, promises à périr, aux primes rayonnées. Il décrit ensuite les roses et leurs différents aspects, et puis il s'arrête sur une qui commence déjà, dès le matin, à baisser un peu de la tête. Elle, qui tantôt brillait, sous sa chevelure en feu, pâlit abandonnée de ses beautés déchues. Je m'étonnais qu'à ravir l'âge en fuyant fût si prompt, et que dès en naissant mes roses soient chenues, quand de leur toison d'or, voici fût le vif vermillon. Ma voix expire, et pourpre au sol, lui, la jonchée. Tant d'aspects, d'éclosillons, de chatoyantes nouveautés, un seul jour les commence, un seul jour les enlève. Nature, nous soupirons, pareille grâce est si brève, à peine aux yeux parus, tu nous ravis tes dons. Une rose ne dure que ce que dure un matin, belle enfant dans sa fleur, la vieillesse l'atteint. Telle en naissant à l'aube, aux yeux clairs d'aurore apparue, le soir à son retour est vieille devenue. Mais passe, bien qu'en peu d'espace elle ait à se mourir, d'âge en âge on verra les roses refleurir. Cueille ta rose belle, à fleurs neuves et neuves fleuries, souviens-toi le bel âge, ainsi passe et s'enfuit. Oui, je crois bien que c'est un poète quand même.
Bien, bien, effectivement, après cette, enfin, ça coupe la voix. On ne sait que dire. Il va falloir maintenant que l'assistance prenne le relais, enfin mon relais, et pose un certain nombre de questions qui lui paraîtront les plus pertinentes à Bernard Combault. Je pense que quand même tout ce qu'il a dit, à la fois sur la poésie, mais également peut-être sur le devenir du latin et du grec, il y aura peut-être des positions.
Que les hellénistes me pardonnent.
Je ne suis pas sûr. Voilà, alors, qui souhaite intervenir?
Est-ce que nous avons les œuvres entières de Ozone, ou bien est-ce qu'il y en a de perdues? Et combien y a-t-il de manuscrits, et de quelle époque sont-ils? Enfin, à quand remonte-t-on?
Alors, pour les œuvres d'Ozone, je dirais que la plupart sont perdues, irrémédiablement. Nous n'avons que les restes, les lambeaux, d'une tradition complexe. Deuxième question, plus de 120 manuscrits, mais qu'on peut ranger en trois familles principales. Longtemps n'ont été connus d'Ozone que deux de ces familles. Une famille contient des extraits assez peu nombreux, et certains des manuscrits de cette famille contiennent, outre les églogues et les quatrains des Césars, la Moselle. Très probablement, ces manuscrits ont été mis en circulation à partir de Trèves, c'est-à-dire de la cour impériale, et ont diffusé ensuite dans le haut Moyen-Âge à partir de la bibliothèque d'Aix-la-Chapelle. On les retrouve notamment à Saint-Gall, en Suisse. Une deuxième branche est allée en Italie. Elle contient des textes fort différents de la précédente, notamment presque toutes les épigrammes, et plus particulièrement les épigrammes les plus salaces. Elle était sans doute destinée au public de lettrés païens de l'Italie. Elle nous est conservée par des manuscrits très tardifs de l'époque humanistique, dont aucun ne renaît antérieur à 1350, et qui sont presque tous de la fin du 15e, hein, donc contemporains, pour ainsi dire, de l'époque de la naissance de l'imprimerie. Ces manuscrits remontent tous sans doute à un archétype conservé à Bobbio. Là-dessus, il y a deux collections, deux modèles. L'un s'est retrouvé dans la bibliothèque capitulaire de la cathédrale de Vérone, et c'est celui qui avait entre les mains Pétrarque, en 1350. Très riche, très intéressant. Il contient notamment le catalogue des villes célèbres, qui appartient à la troisième tradition dont je n'ai pas encore parlé. Et puis, la partie qu'on trouve dans les manuscrits humanistiques, une quinzaine, ou moins, si on ne compte pas les manuscrits calligraphiques. Et puis, il y a une autre branche, qui est probablement partie de Bordeaux, qui est la collection de poèmes qu'avait demandé l'empereur Théodose à Ozone. Et cette série de ses œuvres, qu'il compose à Bordeaux, il mourra avant de d'y avoir mis la dernière main. Son fils Hespérius et un de ses amis, Pacatus, éditent cette série S, et une copie transite en Espagne, probablement par le canal familial et amical des Paulins. Il va y avoir une copie en visigothique. Cette copie visigothique est transportée par des moines espagnols qui vont séjourner longtemps à Sainte-Barbe, à l'île Barbe, plutôt, cette abbaye bénédictine, sur une île de la Saône, juste au nord de Lyon, où on la retrouvera en 1558. C'est le fameux manuscrit Vossianus. D'autres copies de cette même collection avaient été faites, comme celle de 1552, réduite à l'état pulvérulent que Sanazar avait découverte 50 ans avant Nicolas Charpin, qu'il avait ramené en Italie et qui a permis de reconstituer à Robaz le manuscrit fantôme dont je parlais. Voilà donc trois branches, une italienne bifide avec le manuscrit de Vérone, dont il reste deux témoins spectaculaires, très beaux, le Parisinus qui était celui de Pétrarque et le Harleianus qui est au British Museum. La flottille des manuscrits dont on ne trouve que des témoins très tardifs, manuscrits humanistiques, avec surtout les épigrammes et quelques épîtres. Et puis le vaisseau amiral, transitant par l'Espagne, par l'abbaye bénédictine de l'île Barbe, exhumé au XVIe siècle à deux reprises et sans le savoir. Sanazar, bien sûr, ne pouvait pas savoir que Nicolas Charpin, en 1558, allait découvrir un manuscrit semblable à celui qu'il avait découvert. Mais après, le rapprochement n'a jamais été fait avant moi. La démonstration que Sanazar avait vu quelque chose qui était de la même famille que le Vossianus n'avait pas été faite avant cet ouvrage. Voilà, pour répondre un petit peu à vos questions. Mais la plus grande partie de l'œuvre est perdue. On n'a presque rien de ce qu'il a écrit avant l'âge de 50 ans, à l'âge de son départ à Trèves, de début de sa carrière politique et de son préceptorat. Il avait forcément écrit beaucoup, ne serait-ce que parce que c'est sa notoriété de poète et d'orateur qui lui avait valu d'être choisi comme précepteur du dauphin impérial de Gratien. Et de là, il nous reste vraiment des bribes, très 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 peu de choses. Alors pourquoi ? Vous posiez la question du christianisme d'Ozone. Elle lui a été peut-être fatale aux alentours du 8e siècle. Là, effectivement, il a été peu copié. Et la seule partie de son œuvre qui a été copiée, c'est celle qui part d'Aix-la-Chapelle ou de Trèves, qu'on retrouve à Saint-Gall, en Suisse, et qui comporte beaucoup de vers d'almanach, des dictons, des proverbes mis en poème, la partie la plus didactique, si j'ose dire. Et beaucoup de ces poèmes, dont le Derosis, Nascantibus, admirable, ont fini par être proles sine patres, des enfants orphelins de père, parce qu'ils étaient copiés de manière anonyme. Donc on copiait un choix de 3-4 poèmes, mais on ne savait plus qu'ils étaient d'Ozone. Et on a commencé à réattribuer ça à Ozone à l'époque d'Acursus, donc c'est les savants de l'époque d'Aléandre, d'Acurse, de Sanazar, au début du XVIe en Italie, qui ont commencé à s'intéresser de près à ces réattributions. Voilà. Mais c'est une œuvre vraiment explosée qui nous est parvenue. C'est pour ça que c'est la tradition la plus obscure de tous les auteurs de l'Antiquité grecque et latine. Il n'y a pas plus compliqué en termes de codicologie. C'est pour ça aussi que on s'y était risqué avec prudence et on le regardait de loin.
Oui, monsieur.
Alors, oui, ma question va vous paraître probablement naïve. Je voulais savoir d'où vient le besoin de retraduire les textes antiques au fil des générations, à votre avis ?
Alors, c'est pas simplement pour les textes antiques, hein, c'est aussi, mais aussi bien pour les textes du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Ce n'est pas du tout un... comment dire ? Les traductions ne sont pas les œuvres. Il y a un lien consubstantiel dans une œuvre littéraire, hein, entre la forme et le sens. Dans une œuvre littéraire, la forme est partie intégrante du sens. Et donc, il y a un enracinement dans la langue d'origine de ce qui fait la littérarité même d'une œuvre, qu'elle soit prose ou poésie. Or, pour rendre sensible à une génération la littérarité d'une œuvre, on est obligé de mobiliser des moyens linguistiques et stylistiques différents de génération en génération, parce que chaque génération n'a pas lu les mêmes auteurs, n'a pas les mêmes références, n'est pas nourri des mêmes poètes. Et donc c'est parce que l'éducation évolue, que la culture littéraire évolue, et que la littérature aussi, celle que l'on crée. On ne peut pas traduire Ozone après Mallarmé, après Lautréamont, après Jouve, après Char, après Éluard, après de la même façon qu'après Lamartine, ou qu'après Delille, ou qu'après La Fontaine, comprenez-vous ? Nous entendons la poésie autrement. Nous jugeons du poétique et de la poétique, ou du non-poétique, autrement. Nos critères évoluent. Donc là, c'est les mœurs, c'est l'histoire des mœurs, des idées, des représentations, qui fait que réintroduire à une génération donnée, dans les représentations d'une génération donnée, ce qui fait la littérarité des sonnets de Shakespeare ou des distiques d'Ozone, suppose à chaque fois une reprise en charge de l'énonciation sur nouveaux frais. Est-ce que je me suis fait comprendre ?
Attention, les hellénistes attaquent.
Je ne parlerai pas en tant qu'helléniste, mais je voulais vous poser une autre question qui concerne la transmission du texte. Vous avez parlé d'une tradition explosée, d'une œuvre explosée. Est-ce que se posent des problèmes d'attribution de certaines œuvres à Ozone ? Est-ce qu'on a des œuvres apocryphes ? Est-ce qu'on a des fragments anonymes qu'on attribuerait à cet auteur ? Enfin,
je vous remercie de m'avoir posé cette question, parce qu'effectivement l'Antiquité c'était une industrie, c'est une civilisation du texte généralisé. Le texte, on croit qu'on le connaît, en réalité les glosateurs, les commentateurs ont fait le texte de Virgile, non moins que Virgile a fait le leur, et l'Antiquité était une civilisation généralisée du texte. On se cite, on s'entrecite, on se glose, on s'émule. Donc évidemment, le texte ozonien contient beaucoup de pièces apocryphes. Notre idée de l'auteur, de l'originalité auctoriale et moderne. Un Foucault, on a très bien parlé. Oui, il y a du texte, notamment du 4e siècle, que je donne. Je donne tout le texte ozonien, y compris ce que je considère comme apocryphe. Je donne toute la tradition du texte ozonien, y compris les textes qui sont apocryphes. Mais il y a des apocryphes du 4e, de les contemporains d'Ozone, dans lesquels on trouve une collection d'épigrammes, dans lesquelles il y a une épigramme au moins d'Ozone authentique. Les autres sont de Nocellius, on les trouve avec les épigrammes de Bobbio, et cette partie-là de l'anthologie de Bobbio est problématique. On marche sur des œufs. Mais on ne peut pas l'attribuer à Ozone parce qu'on n'a pas de critères suffisants. Ensuite, au XVIe siècle, il y a eu des faux, il y a eu des apocryphes. Les humanistes ont fait du Ozone qu'ils ont rajouté au texte d'Ozone pour faire plus chic chez leurs éditeurs. À cette époque, on pouvait faire peut-être un peu d'argent, je ne sais pas.
Alors, si je comprends bien, le texte, enfin l'œuvre, on n'a pas d'édition antique des œuvres complètes d'Ozone.
Si, celle-là en est une. Tout ce qui reste...
Antique. Non. Je veux dire, comme on peut l'avoir pour d'autres auteurs. Là, si je comprends bien, l'œuvre a été séparée en groupes et donnant à chaque fois lieu à une tradition manuscrite différente. Et par ailleurs, il semblerait qu'il y ait eu des corpus de miscellanéa, peut-être à usage scolaire, qui aient diffusé le texte avec d'autres...
Voilà. Nous n'avons que des anthologies d'anthologies. Mais c'est le problème des ex-captores, de ceux qui ont fait la sélection des textes, c'est très complexe. Il faudrait dire un mot quand même de la publication dans l'Antiquité. Le poète envoie son texte à un ami. Cet ami le lit à haute voix, le fait lire à haute voix par un esclave grec dans son cercle. Si ça plaît, on en demande copie. Et on s'adresse à un scriptorium qui fait de la copie industrielle, à la main, mais à la chaîne. Et ainsi ça diffuse. L'ami envoie à son cercle d'amis, qui envoie à son cercle d'amis, etc. Les œuvres circulent de manière détachée. Ozone a mis au moins une anthologie en chantier, dont on a des traces de composition, par des préfaces manuscrites, à la première, des préfaces à la première personne, pardon. On n'a rien de manuscrit, il dictait. Il corrigeait ce qu'il avait dicté, mais il dictait. On n'a pas d'œuvre complète originale. Ensuite, au Moyen-Âge, comment ça se passait? Par exemple, si on prend un collectionneur comme de tout, au XVIIe, même avant, on va dans un scriptorium, et on dit, comme chez le fleuriste, ou chez l'épicier, vous mettrez une pincée d'Horace, plutôt les amours que les métamorphoses, vous mettrez, je voudrais un petit peu d'ozone, qu'est-ce que vous avez en magasin? Alors le scribe, il va chercher qu'est-ce qu'il a d'ozone en magasin. Je peux vous proposer les églogues, la série des églogues. Ah ben très bien, la série des églogues. Et puis vous voulez pas quelque chose d'un peu plus leste? Ah si, dans les épigrammes. Vous avez les épigrammes? J'en ai quelques-unes. Ça vous irait? Oui, vous me rajoutez ça. Voilà. Et ça, c'est ça qui a fait les manuscrits qui nous sont arrivés. Mais c'est le cas de la plupart des auteurs latins. À part les majeurs. Virgile a eu une tradition hors du commun, parce qu'en plus le Moyen-Âge l'a christianisé rétrospectivement. Horace a une tradition hors du commun parce qu'il est comme le père de l'Ars Poetica. C'est tout à fait exceptionnel. Mais la plupart des poètes latins, comme Stas par exemple, ont eu des traditions semblables. Et il y a des problèmes d'attribution, bien sûr, notamment pour les roses. Ce problème est réglé pour la première fois grâce au manuscrit fantôme Arobaz dans cette édition. Et là-dessus, au moins, j'ai convaincu tout le monde dans mon jury de thèse.
Monsieur ? Je voudrais revenir un instant sur le Coligo Urgo que vous avez si bien lu tout à l'heure, sur le poème des roses, évidemment qui nous renvoie tous à la Pléiade, à Ronsard, au XVIe siècle. Est-ce que vous pourriez justifier le choix de cette traduction qui sonne très XVIe, c'était très joli, c'est très beau, mais un petit peu connoté aussi dans la sophistication, dans la douceur, on a l'impression de dire du Ronsard. Est-ce que vous pourriez Il y a dans les appendices des justifications de traduction sur un certain nombre de poèmes. Est-ce que vous pourriez rejustifier la traduction que vous avez faite du poème des roses?
Oui, alors évidemment, on entend Malherbe et Ronsard et Baïf dans ma traduction, tout comme dans le poème de Ronsard, on entend les Géorgiques, Horace et Virgile. C'est une poésie d'écho. Donc quand je le pouvais, j'ai rendu écho pour écho. D'où l'impression, exactement, que vous avez eue d'entendre un poète du XVIe siècle, mais Ozone, pour un contemporain, sonnait archaïque. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la différence avec les épîtres de Paulin, une génération après, ou avec Sidoine Apollinaire ou Fortuna. La musique d'Ozone, c'est la musique de la vieille maison, poétique latine. Et donc, au IVe siècle, ça sonne... littéraire, lettré, et avec ce recul, cette distanciation historique, la situation historique de l'écriture d'Ozone et de l'archaïsme volontaire. Ce qui fait que c'est ça que j'essaie d'imiter, d'émuler dans ma traduction. Donc, si vous entendez effectivement des échos de notre XVIe siècle, c'est parce que on entendait des échos poétiques vieux de 4 siècles dans le poème d'Ozone. Alors il suffit de consulter les loci similes qui sont à la fin de l'ouvrage. Vous avez absolument tout ce qui a été, toutes les collocations de termes, toutes les sources et les influences également. Grâce à l'informatique, on ne rate rien ou presque. Donc je pense que ce sont les loci similes les plus complets. Et vous verrez qu'effectivement, c'est une poésie d'écho et qui remonte à une poésie souvent pluriséculaire. Ensuite, ça aurait été modernisé outrageusement, c'est-à-dire ça aurait été traduire Ozone comme je traduirais peut-être Fortuna. Mais pas un poète archaïsant. Ensuite, le côté malarméen, il est dans la syntaxe, il est dans le vocabulaire. C'est, comme disaient les troubadours, du trobarclous, de la poésie très fermée. Donc, je pense que le côté malarméen, il est rendu dans la syntaxe, dans les sélections lexicales difficiles. C'est pas tous les jours qu'on va tomber sur pruiné, par exemple, comme épithète. Donc là, il y a le côté malarméen.
Oui, un peu autre chose. Ozone et Bordeaux. Je voulais savoir, y a-t-il vécu? Qu'y a-t-il fait? Et est-ce qu'on a quelques éléments biographiques suffisamment importants pour comprendre un petit peu voilà, sa vie dans la région ?
Il est né à Bordeaux, il y a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Son métier était professeur.
Où ça ?
Alors, où ça ? Il avait beaucoup de... C'est un riche propriétaire foncier. Il semble que ce soit à Codéran, entre Codéran et Saint-Seurin, entre le parc Bordelais et l'église Saint-Seurin, qu'il avait plusieurs métairies, et la villa dans laquelle il résidait, qui était donc un faubourg. Le faubourg de Novare. C'est là qu'il était à Bordeaux. Il n'aimait pas trop la presse, la foule, les murs. Et dès qu'il arrivait, qu'il touchait le port... Alors, il voyageait beaucoup à la voile et à la rame en utilisant la marée montante et descendante pour aller à Libourne, pour aller à Langon, pour aller au Verdon. On a beaucoup de témoignages dans son œuvre sur Bordeaux et la région. Il y a plaidé, puisqu'il était avocat. Il y a enseigné, puisqu'il était professeur. Il a eu comme disciple Paulin, qui sera Saint-Paulin de Nol. Il est parti à Trèves à 50 ans. Vers 360, il en revient vers 383, après avoir exercé quand même des fonctions non seulement de précepteur, puis des fonctions politiques importantes. Et quand il revient, il va vivre encore une douzaine d'années à Bordeaux. Et il occupe ses loisirs et sa retraite studieuse à faire de la poésie, ce qu'il a toujours fait. Il y a sa famille, bien évidemment, et ses propriétés multiples. Certaines du côté de Bazas, d'autres du côté de Langon, héritage de la mer. Il y a beaucoup de propriétés, on n'arrive pas à les dénombrer toutes. Robert Etienne lui-même n'y est pas arrivé. C'est des propriétaires latifondières, c'est des milliers d'hectares qu'il possède. Il en possède aussi en Espagne. Mais enfin bref, il fait partie des grands propriétaires bordelais. Mais il revient de loin. Sa famille paternelle... sa famille maternelle, pardon, a été ruinée par des événements politiques à l'époque de Détricus en Bourgogne. Sa mère était éduenne. Elle s'est réfugiée à Dax. Ils se sont refaits petit à petit par le travail, par les études, par les alliances. Le père d'Ozone, de son côté, est un médecin très renommé. Ozone fait un très beau mariage et c'est son premier jackpot lorsqu'il épouse la fille Sabina Lucana. Là, évidemment, c'est Dallas. Il a 200 hectares qui lui viennent de son père du côté de Bazas, il y en a 12 000 qui lui tombent du côté de son épouse. Et puis le deuxième jackpot, ce sera évidemment quand il sera préfet de 3 préfectures qui représentent l'Empire, le futur Empire d'Occident, c'est-à-dire l'Afrique, l'Illyrie, l'Italie, les Gaules, qui comprennent l'Espagne et la Grande-Bretagne. Là aussi, c'est une sinécure, c'est pas une sinécure, non, parce qu'il va vraiment administrer, rédiger des textes, etc., mais ça va lui rapporter une position sociale extraordinaire. Donc il s'est bien rétabli, et même il s'est haussé au plus haut de ce qu'était la hiérarchie des notables bordelais de l'époque, qui n'était pas rien. Parce que déjà à cette époque, Bordeaux avait un rayonnement universitaire. C'est ça qu'il faut savoir. Cette ville était très importante comme carrefour commercial et comme foyer universitaire à l'époque gallo-romaine. Et Ozone en est une figure marquante. Mais à la force du poignet quand même. Il y a un côté self-made man hein, chez lui. Il termine Rothschild, mais il a fallu le faire à Bordeaux. Je voudrais préciser qu'il va y avoir toute une série de petits articles, d'articles brefs dans le Sud-Ouest, pendant les fêtes, qui vont porter sur des sujets régionaux, Ozone et tel ou tel aspect de la région. Alors, lisez bien dans le Sud-Ouest, vous avez les cailloux du petit pousset pour retrouver Ozone et Bordeaux.
D'ailleurs, il y a eu une présentation de votre livre dans le Sud-Ouest, il y a de ça voilà. Un mois et demi,
dont je remercie M. Lucet, ici présent.
Qui a annoncé très largement... votre conférence d'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, Monsieur Combeau, merci encore pour avoir, je pense, à beaucoup de monde, permis de retrouver Ozone, que beaucoup avaient traduit dans le fameux Maurice et Thévenot, de l'avoir donné une nouvelle jeunesse, et puis aussi de la manière dont vous l'avez présenté, parce que effectivement, je pense que vous n'êtes plus enseignant maintenant.
Non, je suis inspecteur général.
Ben, peut-être que vos élèves et vos étudiants vous regrettent, parce que un professeur comme ça qui est capable de parler d'Ozone...
Il y en a.
Ah, des anciens.
J'ai vu Flammery, par exemple.
Ah, Guillaume Favry est un ancien de vos enseignants.
Oui, oui, oui,
hein,
oui,
d'accord.
Oui.
Bon, quelqu'un qui est capable à la fois, je dirais, de manier à ce point le texte d'Ozone, et puis d'être capable de parler de rap, de parler de Rothschild, de Dallas, montre bien à quel point, je dirais, vous êtes un enseignant complet. Et je pense qu'aussi, ça fait partie, cela, ça fait partie, sans démagogie aucune, ça fait partie de la panoplie de l'enseignant, que d'être capable de faire passer la passion qu'il peut avoir pour les textes. Et je crois que pour tout cela, M. Combeau, nous vous remercions.
Je vous remercie beaucoup, M. le Président.